Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Bon, bah l'année 2017 se termine petit à petit. Le mois de décembre est déjà bien avancé. C'est l'heure de préparer 2018. Certains d'entre vous ont peut-être déjà des projets. J'espère en tout cas que le podcast vous permet d'avancer, de progresser, de vous projeter dans des projets futurs, d'avancer dans vos projets actuels, d'avoir des nouvelles idées, de débloquer certains freins que vous pouvez avoir, ou en tout cas que ça vous donne l'envie de faire de nouvelles choses et que ça vous donne aussi des nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour le faire mieux, plus vite et des fois de vous aider tout simplement à le faire. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil qui moi personnellement est rentré dans mon quotidien mais à un point inimaginable. J'ai découvert ça il y a quelques années, je l'ai adopté mais massivement et désormais je peux plus m'en passer. C'est pas vraiment un outil, c'est pas vraiment un logiciel, ou en tout cas c'est le fondement de plein d'outils dont je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière. J'en avais évoqué le nom et j'en parle régulièrement quand je parle d'écriture et de rédaction. C'est le langage Markdown. J'en ai tellement parlé sans vous en dire exactement ce qu'il en était qu'aujourd'hui il était important que je vous dise pourquoi pour moi vraiment c'est le langage, oui on va appeler ça vraiment un langage, qui me permet moi de travailler beaucoup plus vite, de travailler beaucoup plus efficacement. Alors avant tout, c'est quoi Markdown? La genèse de Markdown, en fait, c'est un langage de balisage léger créé par John Gruber en 2004. À l'origine, c'est un outil pour convertir du texte en HTML. Le but du jeu était d'écrire du texte brut, sans mise en forme, ou avec une mise en forme très légère, qui soit facile à lire, mais qu'on puisse le convertir facilement en HTML. L'avantage, c'est de pouvoir générer du code HTML pour son site, même si on n'y connaît rien. Et c'est aussi de pouvoir garder un texte brut qui soit facile à lire, tout en ayant un bout de mise en forme. C'est-à-dire que si on veut mettre un mot important, signaler qu'un mot est important, qu'on puisse le faire sans que ça gêne la lisibilité. Or, le langage HTML de base le permet en partie, mais à l'époque même d'ailleurs, le langage HTML était fait pour présenter certains éléments, il mettait un peu de gras, de l'italique, etc. Il a beaucoup évolué, et quand vous regardez le code HTML d'une page, il est beaucoup plus compliqué. Mais la base du langage était simplement de la mise en forme. Là, il est parti d'un principe que dire que bon, le HTML peut être compliqué dans sa mise en forme et dans l'écriture qu'on peut avoir, des fois, même ça c'est une question d'habitude, mais on peut faire plus facile, et en plus il est plus facile d'apprendre Markdown que HTML. Et depuis c'est devenu un standard. Alors le principe de Markdown, bon, il y a deux parties. Il y a une partie, c'est le langage de balisage lui-même, je vais revenir tout de suite dessus, et l'autre partie, c'est l'outil qui permet de transformer ce balisage en résultat, en présentation, en contenu plus visuel. Alors, le principe du balisage, en fait, c'est que un fichier Markdown, c'est pas comme un document Word ou page ou texte edit, tout ce que vous voulez, c'est juste un texte brut. Si vous prenez un document Word, en fait, c'est un fichier qui a d'une part besoin d'un logiciel pour être compris et ouvert, donc le document Word. Donc c'est le format docx, doc ou docx. Et puis derrière, en fait, quand vous mettez du gras, bon, ça apparaît gras à l'écran, mais vous savez pas trop ce qui se passe derrière. Quand vous avez l'italique, idem, quand vous mettez une image, l'image est insérée directement dans le document, donc un document Word est un document indépendant. Il intègre aussi des polices en partie, des images, etc. Ici, Markdown, on part d'un principe différent. C'est qu'on part du principe d'un texte brut, mais vraiment où vous n'avez aucune fioriture, dans lequel vous allez ajouter quelques caractères de mise en forme. Alors, ceux qui ont traîné sur les forums à une ancienne époque se rappelleront du bébé code, voilà, ou qu'on allait dans les forums de discussion qui permettaient de mettre du texte en gras ou des choses comme ça. Vous vous rappellerez aussi peut-être pour certains du mail tel qu'on codait les mails à une époque, parce que en fait le Markdown est issu de cette culture-là du mail, voire même du newsgroup une époque. C'est-à-dire, c'est comment, quand on avait des outils qui étaient purement en texte, on arrivait quand même à faire comprendre aux gens ce qui était important dans notre texte. Ça passe comment? Ça passe par de l'ajout de petits éléments de mise en forme simple dans le texte brut. Mais la caractéristique de Markdown, c'est que le fichier que vous avez au final reste un fichier texte. C'est un fichier texte d'ailleurs que vous pourriez très bien faire avec un logiciel aussi simple que Notepad sur un Windows, ou un logiciel qui ne fait que du texte de code pur de programmation, hein. Vous n'avez même besoin d'aucun logiciel, puisque vous avez juste besoin de savoir taper quelques codes qui sont des étoiles, des tirets, des choses comme ça, ou un signe dièse. Ça, c'est pour la partie écriture. Donc, c'est un texte qui devient, c'est un fichier brut, hein, vraiment, dans lequel vous ajoutez quelques codes. Ensuite, vous avez l'outil de transformation qui, lui, va transformer ce texte, comprendre un petit peu ce balisage et le transformer en quelque chose d'autre, et notamment au départ en HTML. Alors, à l'origine, en 2004, les outils qui avaient été mis en place, c'était des librairies qu'il fallait installer sur son ordinateur, fallait faire un peu de ligne de code d'ailleurs dans les toutes premières versions. C'était pas très pratique, mais petit à petit, en fait, ce langage s'est répandu et il est inclus désormais dans de nombreux logiciels. Il est même la base de nombreux logiciels et il est compris par de nombreux CMS, donc des outils pour gérer son site. Le gros avantage de ce langage, c'est que le texte reste lisible. Dans tous les cas, ça reste un texte brut dans lequel les quelques caractères que vous allez ajouter ne vont pas gêner la lisibilité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des caractères qui perturbent la lecture du texte. En fait, ça va un petit peu le structurer et ça va rester un fichier qui est facile à lire. Le fichier en lui-même reste très léger. C'est un fichier texte. Moi, j'ai des fichiers d'articles dans Markdown qui font 2 ou 3 kilos. Comparé à un document Word qui des fois en fait 17, 20 ou 30, alors qu'il n'a que du texte à l'intérieur, hein, même du texte pas mis en forme. Et vous avez des documents Word qui peuvent être rapidement très lourds. Quand un fichier texte, lui, ça reste un fichier texte en fait. Il n'y a que les caractères qu'il y a à l'intérieur. Le gros avantage du fichier texte, en fait, c'est que n'importe qui peut l'ouvrir et le lire facilement. Vous n'avez même pas besoin de dépendre d'un logiciel ou quoi que ce soit. N'importe quel logiciel capable d'ouvrir un document de texte brut est capable de l'ouvrir. Ça peut être un Word, ça peut être Notepad, je vous disais tout à l'heure sur Windows, TextEdit, un logiciel qui s'est généré du code, ou même les logiciels type VI ou compagnie qu'on a sur les Linux et sur les systèmes en ligne de commande, comme ça, qui sont juste de l'affichage de texte à l'écran. Dans tous les cas, vous arriverez à lire ce fichier-là. C'est d'ailleurs ce qui fait la pérennité des fichiers, c'est-à-dire qu'au lieu de créer des fichiers dans des formats dont il vous faut garder le logiciel de base pour pouvoir relire le fichier, ici vous avez juste le fichier texte. Pour de l'archivage de contenu, c'est super intéressant, d'une part parce que c'est très léger, donc ça prend vraiment pas de place, ça se sauvegarde très facilement sur des Dropbox, etc., synchronisé en quelques secondes, mais en plus, vous êtes certain que vous aurez toujours un moyen de l'ouvrir, puisque en fait c'est le fichier, mais vraiment de base, c'est le fichier brut, voilà. C'est du fichier brut, légèrement, avec quelques éléments qui permettent de mettre en avant ce qui est important dedans. Donc vous êtes vraiment pas dépendant du fichier de départ. Et puis derrière, bien sûr, vous pouvez l'ouvrir avec un logiciel très basique, ou vous pouvez avoir des logiciels qui sont spécialisés en Markdown, qui vont prévisualiser la mise en forme, qui vont vous permettre aussi de l'exporter dans divers formats. Et c'est là où ça remplace un petit peu ce qu'avait mis au départ en place John Gruber et son acolyte dont j'ai perdu le nom, qui permettait de transformer par des lignes de commande. Ici, la plupart des logiciels intègrent en fait les librairies de transformation. Vous pouvez même le prévisualiser pendant que vous l'écrivez, c'est le gros avantage de ces outils-là. Et puis vous avez des outils qui vous permettent de transformer dans tout un tas d'autres formats. Comme c'est du texte brut très facile à comprendre, il est très facile à transformer dans plein d'autres choses, voyez. C'est pas comme si vous vouliez passer d'un document Word qui a tout un tas d'encodages compliqués derrière et vous savez pas trop comment il faut décortiquer le fichier en texte brut et donc le nettoyer. Ici, à l'inverse, vous avez un texte très 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 brut et donc il est relativement simple ensuite de transformer ça une fois en HTML, une fois en PDF, une fois en, je sais pas, même en document doc ou quoi que ce soit. C'est le gros intérêt de ça. Et finalement, quand on y a pris goût, on se rend compte aussi que ça a de nombreux avantages. Alors avant de vous donner les avantages, je voudrais vous dire quand même à quoi ça ressemble, parce que, bon, bien sûr, visuel, par l'audio, ça va être compliqué, donc bien sûr, je vous mettrai des liens dans les notes de l'émission vers les différents outils. Mais, pour vous imaginez ça, dites-vous que vous prenez l'outil de saisie de texte le plus simple possible, pardon, que vous ajoutez juste dedans quelques symboles. Mais quelques symboles, c'est quoi? Eh bien, c'est... Si vous mettez un mot entre deux étoiles, enfin entre une étoile avant et une étoile après, le mot sera en italique. Si vous mettez le mot entre deux étoiles, deux étoiles avant, deux étoiles après, il sera en gras. Vous voyez, bon, il n'y a rien de plus compliqué. Alors, vous avez des petites variantes, hein, des fois. Moi, je vous donne la manière de l'écrire. Vous avez des variantes avec le slash. Vous avez des variantes avec l'underscore aussi, qui permet de faire du soulignement. Mais je n'utilise jamais le soulignement, parce que comme je fais beaucoup de HTML, le soulignement, c'est le lien. Et là, on n'est pas dans du lien. C'est là où, des fois, dans le tel qu'il avait été imaginé le code, moi, j'utilise pas tout. Si vous voulez faire des listes à puces, bah vous mettez un tiret et puis vous mettez votre texte, vous revenez à la ligne, vous mettez un autre tiret, ça vous fait une liste à puces. Vous pouvez faire des listes à puces numérotées sur le même principe, hein, vous commencez votre liste à puces, vous mettez 1, un point, le texte, 2, un point, le texte, etc. Vous pouvez faire aussi des titres. Alors il y a plusieurs moyens de faire des titres. Moi, mon préféré, c'est de mettre un dièse, vous savez, le signe dièse et du texte derrière. Si vous mettez un seul dièse, c'est le titre de plus haut niveau, niveau 1, pour ceux qui ont fait du HTML, c'est le grand titre. Le 2 dièses, ça fera le niveau 2, 3 dièses, le niveau 3, et vous pouvez descendre ainsi tranquillement dans l'arborescence. Vous pouvez ainsi structurer très facilement et vous repérez les dièses. Je vous le dis, il y a aussi des méthodes hein, qui mettent des petits tirets en dessous, une ligne de tirets. Moi, je suis pas très fan de cette écriture-là, mais même si elle est peut-être un poil plus visuelle, je préfère largement l'écriture avec le dièse. Je trouve qu'en fait, elle est juste plus rapide à écrire. Vous pouvez aussi faire des citations, hein, des blocs de citations. Vous voyez, il vous suffit de mettre le signe supérieur à en début de paragraphe, et puis vous avez un bloc de citation. Si vous voulez créer des paragraphes et aérer votre texte, c'est là la magie du truc, hein, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre des caractères comme en HTML ou faire des paragraphes, des sauts de ligne ou quoi que ce soit. Là, vous laissez une ligne vide entre deux paragraphes, entre deux blocs de texte, ça vous fera des paragraphes. C'est pour ça que je vous dis que ça reste un texte qui reste extrêmement lisible. Quand vous lisez comme ça, même s'il est balisé en Markdown, mais que vous n'avez pas la prévisualisation Markdown, puisque de toute façon, un paragraphe, il se détache parce qu'il y a une ligne avant, une ligne après, la liste à puces, elle est écrite ainsi, etc. Vous pouvez ajouter d'autres éléments, par exemple, vous pouvez faire une ligne horizontale avec des petits tirets, donc en HTML, ça va se transformer en ligne horizontale, mais dans certains outils, ça peut devenir un saut de page, voilà, par exemple, ça dépend des outils, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Vous pouvez aussi faire des liens, des tableaux, des notes de bas de page, voilà, il y a plein de choses qui dans le code ont été faites comme ça. Vous pouvez aussi ajouter des images, mais là je dois vous préciser une chose, c'est que l'image, contrairement à Word, elle n'est pas intégrée dans le document, elle est appelée depuis l'extérieur. On reprend un petit peu la logique du HTML, c'est-à-dire vous pouvez avoir une image sur un site, il vous suffit d'insérer l'image et de mettre l'adresse de l'image dans votre document, avec le balisage qui convient bien, pour arriver à afficher l'image là où vous le voulez. C'est d'ailleurs très pratique parce que l'image peut être sur internet mais elle peut être sur votre ordinateur, vous pouvez avoir un dossier dans lequel vous avez toutes vos images et puis derrière utiliser la même image dans plusieurs documents Markdown mais n'avoir qu'une version de l'image quelque part mais l'image n'est pas insérée comme c'est le cas dans un document Word. Dans un document Word, si vous ajoutez une image, le document Word complet va comprendre aussi l'image, donc il va s'alourdir. Là c'est pas le cas, mais ça a une petite variante, c'est comme un HTML. Si vous avez un fichier texte, un document dans lequel vous avez deux images, vous aurez trois fichiers. Le fichier texte brut dans lequel vous mettez votre texte avec le Markdown, et puis un fichier pour chaque image. Si vous voulez envoyer ce document-là à quelqu'un, à vos amis, et ben si les images sont sur votre ordinateur et le texte sur votre ordinateur, il faut bien penser à envoyer les trois fichiers. C'est un peu comme le HTML, mais si les images sont sur Internet, vous lui envoyez juste le fichier texte, et lui, quand il affichera ça, il pourra avoir les images s'il a le logiciel qui lui permet d'afficher le Markdown comme il faut, en tout cas le transcrire. Les évolutions permettent aussi de gérer le travail de correction d'un document. Vous avez eu plusieurs évolutions du langage. Je vous passe là-dessus. Je vous mettrai de façon des liens. Et la plupart des logiciels dont je vous parlerai ensuite intègrent une aide qui vous explique et qui vous aide à écrire du Markdown pour apprendre au départ. Alors, pourquoi je gagne du temps? Et pourquoi c'est intéressant pour moi? C'est que, en fait, c'est développé avec ce langage tout un tas de logiciels très simples et très minimalistes pour écrire, dans une interface épurée, dépouillée. C'est-à-dire que vous prenez un outil, je vous en avais parlé la semaine dernière, comme ByWord, qui est un outil d'éditeur de texte le plus simple en HTML qui existe sous Mac, en Markdown qui existe sous Mac. Vous n'avez tout simplement aucune barre d'outils, mais vraiment aucune barre d'outils. Vous mettez en plein écran, vous n'avez aucune barre d'outils. Quand vous passez dans Word, en comparaison, Word va vous paraître de charger, mais incroyablement. Et c'est le cas, il est chargé incroyablement. Dans Word, en fait, vous vous servez de 3 fonctions ou 4 fonctions, mais vous avez 50 boutons pour avoir toutes les autres fonctions que vous n'utilisez jamais. En Markdown, dans les éditeurs, c'est un petit peu l'inverse. Vous avez des éditeurs de texte très minimalistes. Alors, ça avait été lancé par un logiciel qui s'appelait HomeWriter, d'ailleurs, qui mettait même une petite musique de fond en écrivant, et qui était vraiment, dérivé de cette tendance minimaliste d'avoir des outils très légers. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas de fioritures, vous n'avez pas de distractions. Et je vous renvoie à ce que je vous disais dans l'épisode de lundi, hein, l'épisode 156, dans lequel je vous disais que... une méthode pour écrire plus vite et quand les idées nous viennent, c'est d'écrire du texte brut à la chaîne, là, le fameux premier jet de merde que vous écrivez en une fois, tout simplement sans vous être distraire par les problèmes de mise en forme, etc. Ici, vous n'avez pas ce problème-là. Si vous voulez mettre en gras, en fait, il vous suffit juste de mettre les deux étoiles avant le mot et deux étoiles après, mais ça va pas vous perturber, vous voyez, pour faire ça. Si vous voulez mettre de l'italique, si vous voulez souligner des choses, mettre des titrages, etc., vous n'avez pas cette problématique-là. D'ailleurs, un intertitre, moi j'utilise beaucoup les intertitres parce que dans WordPress, moi j'ai des intertitres de niveau 3, hein, comme dans beaucoup de WordPress. Bon, ben moi je mets 3 dièses, vous voyez. Si vous faites la même manip dans Word, soit vous avez un raccourci clavier pour mettre, vous rappeler ce que c'est que le niveau de titre 3, soit il faut aller chercher dans les menus. Là, tranquillement, vous mettez vos 3 dièses et vous savez que vous avez votre niveau de titre 3 qui est inséré. On ne se soucie donc pas de... la mise en forme, est-ce que c'est aligné, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche, vous savez, tous ces trucs cosmétiques là, dès que vous avez la cosmétique possible, vous essayez de faire un truc en cosmétique. Non, au départ, quand vous êtes dans la création, dans l'écriture, faut écrire du brut et ensuite vous vous occupez de la cosmétique. Vous ne vous occupez pas non plus de la police ou quoi que ce soit, d'autant que la plupart du temps, quand on est sur internet, tout ce qui est présentation de police, de couleurs et autres, est géré par la feuille de style de son site internet. Donc vous n'en avez pas besoin, vous voyez, c'est pour ça que c'est une hérésie d'écrire des textes pour son blog sous Word, tout simplement parce que Word vous rajoute en plus une quantité de merde pas possible, mais en fait vous avez tout un tas d'outils qui ne vous servent à rien. Pour écrire un article pour votre blog, vous avez juste besoin d'écrire du texte, même pas besoin de faire la mise en forme, vous n'avez pas besoin de mettre les images au milieu ou quoi que ce soit. La mise en forme, les images et autres, ça se mettra directement dans votre outil de gestion de blog. Nous, vous n'avez besoin que de saisir le texte, vous rappeler ce que vous voulez mettre en grand, en italique, les structurations. Et c'est là où Markdown est très 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 pratique avec ça. L'autre avantage, je vous l'ai dit, c'est que vous pouvez écrire avec de multiples outils, même si vous n'êtes pas chez vous, que vous avez l'outil, vous avez... je sais pas, vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez l'écrire, vous pouvez vous envoyer ça par mail facilement, vous pouvez le stocker sur un Dropbox et l'ouvrir ensuite avec un autre logiciel, vous n'êtes pas enfermé dans des outils particuliers. Vous pouvez aussi, le gros avantage, c'est que les logiciels, la plupart du temps, et même les librairies de transformation, vous permettent de générer tout un tas de choses. Donc vous pouvez faire du HTML, comme c'était prévu au départ, du PDF, du RTF, qui est du texte riche, hein, soyons, il y a pas, c'est du... voilà, c'est du Word sans être du Word, mais vous pouvez aussi faire du Word. Vous pouvez aussi exporter ça vers de l'e-book ou du Kindle, par exemple, très facilement. Vous pouvez écrire un bouquin complet en Markdown et l'exporter ensuite pour qu'il soit dans un langage qui soit compris par une liseuse électronique. Voilà. Le gros avantage, c'est que vous n'avez aucune perte de temps, enfin, ou pas de perte de temps. Bien sûr, au départ, vous allez me dire, il faut apprendre le langage, mais la courbe d'apprentissage est très rapide, hein. Je vous ai dit, vous avez... classiquement, vous avez quoi ? Mis à part quand c'est le moment de faire un tableau, et on fait pas toujours des tableaux tous les jours, soyons honnêtes, hein, dans ces documents, vous avez juste à apprendre à mettre du gras, de l'italique, des liens, savoir comment on insère une image, même pas forcément besoin, parce que, à la limite, si c'est pour faire du web, l'image, vous l'insérez ensuite directement dans votre document. Donc vous avez juste besoin de savoir faire des listes à puces, faire des listes numérotées, faire sauter des paragraphes, mettre quelques liens, du gras, de l'italique. Soyons clairs, hein, ça vous demande un petit peu, les premières fois, ça vous demande un petit peu de vous rappeler de ça ou quoi, ou de quelques infos, de garder en tête un petit peu la logique, mais ça rentre très 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 vite. C'est tellement intéressant que c'est devenu une sorte de standard, c'est-à-dire que c'est même, il y a une certaine interopérabilité, c'est-à-dire que c'est devenu un peu un langage pivot, vous voyez, qui permet de passer d'une application à l'autre très facilement. Je vous donne un exemple. Là, tout de suite, je suis en train de... mes notes de l'émission de cette émission sont faites dans le logiciel de mind mapping, qui s'appelle MindNode. C'est présenté en mind mapping, vous voyez, en carte heuristique. Derrière, moi, je vais exporter ça en Markdown, parce que MindNode permet d'exporter ça en Markdown, et je vais ensuite ouvrir le fichier résultat dans Ulysse, qui est, lui, un éditeur qui comprend le Markdown, pour ensuite reprendre les différents éléments et ajouter la description de l'émission et faire des notes de l'émission plus complètes avec les liens, etc. Le pivot là-dedans, c'est que ça m'exporte un fichier texte qui est balisé en Markdown et donc n'importe quel autre outil de pure rédaction texte va pouvoir comprendre. Mais en fait, je pourrais aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que je pourrais très bien avoir un document qui soit balisé d'abord en Markdown quelque part et voir si par hasard un autre outil n'est pas capable de l'ouvrir pour le transformer en quelque chose d'autre et peut-être, pourquoi pas, en carte heuristique. Il me semble que un logiciel comme MyNode le fait, mais j'avoue que je n'ai jamais testé dans ce sens-là. Donc, c'est une interopérabilité qui est très intéressante. C'est ce qui fait aussi qu'il y a de nombreux éditeurs de logiciels qui ont créé, qui ont intégré ce langage à l'intérieur. Soyons clairs, la plupart des éditeurs de code, mais de code de programmation, hein, que ce soit Xcode, Visual Code ou tous les outils comme ça, BBEdit et autres, comprennent le Markdown. Voilà, c'est devenu un standard. Tout simplement parce que ces éditeurs étaient capables de générer des fichiers dans des multiples formats. Finalement, les fichiers de programmation, ça reste des fichiers texte avec des extensions un petit peu particulières. Alors le Markdown, vous pouvez mettre une extension Markdown, .md, .markdown dans certains cas. Mais dans la réalité, vous pouvez garder un fichier en .txt, hein, vraiment très brut comme vous le faites Notepad et compagnie. Et derrière, l'ouvrir quand même dans n'importe quel outil qui comprend le Markdown, puisque il n'y a aucun balisage vraiment spécifique à Markdown pour dire c'est un document typiquement Markdown, il n'y a qu'un outil Markdown qui peut l'ouvrir. Je vous passe sur certains éléments comme il y a des logiciels qui vont bien rajouter des métadonnées mais qu'on met directement dedans et qui dans tous les cas sont écrits en texte brut aussi. Hein. Mais là ça dépend un petit peu des outils, je vous passe sur cette difficulté là, ça va dépendre aussi des outils que vous utilisez derrière. Donc je vous le dis, il y a de nombreux éditeurs de code qui le gèrent. En général, le point commun, c'est qu'ils ont tous une interface assez simple, vraiment très simple, voire très minimaliste. Ils aident aussi dans la saisie, c'est-à-dire que quand vous commencez à mettre une étoile ou deux étoiles, et bien il va comprendre que derrière il y aura un mot et qu'il va rajouter l'étoile ou les deux étoiles après pour finir votre gras. Vous voyez, donc il vous apprend à comprendre un petit peu la logique de comment c'est structuré. Quand vous commencez à faire une liste à puces, vous mettez le premier qu'un tiré, et ben lui derrière il va se dire que la ligne suivante ça sera la suite de la liste à puces, pour les numéros c'est pareil, et puis surtout il va prévisualiser le résultat, donc ça vous permet de voir le résultat, le gras, l'italique, et vous rendez compte tout de suite de votre balisage, à quoi il ressemble. Vous avez votre balisage, mais vous avez aussi le résultat visuel sous les yeux, donc c'est là où vous êtes un petit peu à l'intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez la visualisation telle que vous avez dans un document, comme dans Word, mais sans la lourdeur de Word. Voilà, on va dire que ça, c'est un petit peu l'idée de Markdown. Et puis surtout, c'est que ça vous permet aussi d'exporter et d'exporter dans plein de formats sans passer par de la programmation ou quoi que ce soit. Alors je vous donne quelques éditeurs que moi j'ai utilisés ou que j'ai repérés. Bien sûr, je suis obligé de vous faire un petit mix entre les éditeurs pour Mac, pour iOS, pour Windows, etc. Je vous en donne quelques noms. Je vais commencer par Mac. macOS, ils ont souvent leur pendant iOS, c'est-à-dire que souvent vous avez le même éditeur a sorti des versions pour le Mac, l'iPhone, l'iPad, souvent elles communiquent ensemble par iCloud. Je vous en donne quelques-unes, vous avez Ulysse, hein, dont je vous ai parlé, qui est le logiciel d'écriture, qui est pour moi l'un des logiciels qui est devenu indispensable, Byword, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, iAvWriter, qui est un logiciel de rédaction qui est très intéressant. Moi, je suis pas fan plus que ça de certaines fonctionnalités. Enfin, il y a des fonctionnalités dont je me sers pas, mais je trouve qu'il est pas mal foutu. Mais vraiment, je ne sais pas combien j'ai écrit de textes en Byword dans Ulysse, sincèrement. Et Ulysse, j'y suis tous les jours. Byword, un peu moins depuis que j'ai Ulysse. En prise de notes, vous avez un logiciel qui s'appelle Beer. Je vous mets aussi les liens, qui est très intéressant. C'est là par exemple où on vient à regretter que dans Evernote vous n'ayez pas de Markdown, ou en tout cas que le Markdown était implémenté d'une manière un peu bizarre, parce qu'en fait il le transforme en quelque chose d'autre. Beer, vous prenez votre note directement en Markdown. Vous avez aussi une application de Day One. Day One, c'est une application pour tenir un journal par exemple, et ben vous l'écrivez en Markdown. Donc une fois que vous avez créé en Markdown des documents pour votre site, vous pouvez aussi tenir votre journal en Markdown, et c'est l'un des gros avantages, c'est qu'en fait vous pouvez écrire n'importe quoi en Markdown. Je vous donne deux noms des deux éditeurs Windows. WriteMonkey, je vous mets un lien vers la bêta de la version 3, qui a l'air pas mal du tout. MarkdownPad aussi. Ou alors j'ai découvert hier un logiciel qui s'appelle Typora, T-Y-P-O-R-A, qui je l'ai pas testé. Il fonctionne sous Linux, sous Windows et sous Mac. Il a l'air d'avoir une interface très très propre et être relativement puissant. Vous avez aussi un logiciel sous iOS uniquement qui s'appelle Editorial, qui est très intéressant, qui est un éditeur texte vraiment, vraiment très puissant dans lequel vous pouvez ajouter plein de fonctions. Et puis ensuite, vous avez quelques cas spéciaux. Bien sûr, j'aurais dû mettre dans ces cas spéciaux Day One, mais bon, et Beer, mais il y a quelques autres fonctions, par exemple, intéressantes, quelques autres cas spéciaux. Draft, par exemple, sur iOS, qui est un bloc-notes survitaminé avec... vous mettez du texte, vous pouvez mettre vos textes en brut ou en markdown, et puis derrière vous avez des actions. Ces actions, c'est par exemple de l'envoyer vers un document plus complet, de l'envoyer par mail, de transformer en HTML et l'envoyer par mail. Vous voyez tout un tas de transformations que permet Markdown. Vous ne tapez pas du HTML, vous tapez un texte très brut et ensuite vous l'exportez vers d'autres formats. Bon, je vous le dis aussi, hein, Draft vous permet même de publier sur Twitter, donc de tweeter directement depuis l'application. Pour moi, voilà, c'est pas mon... je m'en sers jamais dans ce cadre-là, mais je vous dis, ça existe. Un autre outil très intéressant s'appelle Marked, hein, on va dire 2. C'est un petit peu le couteau suisse pour prévisualiser et exporter. Le principe de cet outil-là n'est pas, ce n'est pas un éditeur, c'est vraiment un outil qui permet de prévisualiser. C'est-à-dire que vous avez un fichier Markdown, un fichier texte, qui a été balisé en Markdown, vous allez pouvoir l'ouvrir dans Marked. Alors, il marche que sous Mac, hein, je crois pas qu'ils aient fait une version Windows. Et ce logiciel-là, ensuite, va vous montrer à quoi il ressemble, le balisage. Donc, il va vous l'afficher. Ça vous permet d'ailleurs de dire que vous pouvez écrire du Markdown dans n'importe quel éditeur, même un éditeur qui n'a pas de prévisualisation avec Marked. Vous êtes capable de prévisualiser en direct ce qui se passe dans ce document-là, comment ça se transforme. À chaque fois que vous sauvegardez le document, d'ailleurs, au passage, le Mark va faire une mise à jour du document et vous afficher le résultat. Il est capable aussi d'exporter dans de multiples formats avec de multiples options. Il est capable d'exporter vers du RTF, il est capable d'exporter vers du Word, il est capable d'exporter vers du PDF paginé, ou du PDF continu. Il est capable d'ajouter des choses comme de la numérotation en bas de page, des sauts de page. Donc là, quand vous faites une ligne horizontale, et ben il va le faire. Vous pouvez dire de faire un saut de page. Il est capable d'avoir des styles aussi qui vous permettent d'avoir des styles de présentation différents. Et c'est là où on retrouve en fait un petit peu ce que fait Ulysse. Ulysse, vous avez aussi dans ces modes d'export, je vous l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'en ai déjà beaucoup parlé régulièrement d'Ulysse, mais Ulysse sous Mac ou sur iPhone, vous avez, quand vous avez fini votre document, quand vous avez trait sur le document, vous pouvez l'exporter dans différents formats qui sont du HTML, du Word, mais aussi des formats type PDF ou même du livre électronique avec en fait des templates, des modèles qui vont présenter le style différemment. C'est-à-dire vous pourriez avoir... alors suivant l'outil, des fois c'est qu'ils ont, ils sont présentés comme des manuscrits, enfin comme des manuscrits, des trucs tapés à la machine, vous voyez. Des fois c'est tapé comme des rapports, des fois ça peut être affiché comme des présentations plus créatives, etc. Vous avez plein de formats différents, que ce soit Ulysse ou Marked, en plus vous pouvez ajouter vos propres styles. Là où Marked est assez fort, c'est que par exemple vous êtes capable d'ajouter de la pagination, des pieds de page, vous savez, votre nom en pied de page, etc. Moi par exemple, ce que je fais souvent, c'est que je tape dans Byword mes propositions pour des clients. Voilà, on me demande un devis, je le fais dans Byword, je tape ça en texte, en Markdown, avec le balisage, etc. Et en même temps, je l'exporte ensuite avec Marked en disant, bah, tu ajoutes en bas de page mon nom, la date, etc. Tu ajoutes le logo en haut, un saut de page quand je t'ai demandé. Et donc, je me retrouve avec un document PDF sans avoir ouvert un document, un logiciel type Word ou quoi que ce soit. Alors, je peux pas finir ces présentations des outils sans vous parler d'un dernier logiciel qui s'appelle Dexet, alors qui lui n'existe que sous Mac. Et d'ailleurs, je regrette qu'il n'y ait pas une version iOS, c'est dommage. Dexet, en fait, à remplacer et remplace pour moi des outils comme Keynote ou PowerPoint. Le principe de Dexet, c'est un logiciel qui permet de faire des présentations. Et moi, comme vous savez, je fais des cours, j'ai beaucoup de slides à présenter, j'ai beaucoup de documents de ce type-là à présenter. Sur mon ordinateur, un jour, j'avais calculé, j'avais à peu près 20 gigas de documents Keynote. Et pourquoi ? Keynote, c'est le logiciel de présentation d'Apple, hein, qui est un logiciel très puissant, mais quand vous faites un document Keynote, eh ben, il y a toute la présentation, les images, le graphisme, mais même si vous mettez une vidéo dans votre présentation, la vidéo va être enregistrée dans le format Keynote, dans le fichier Keynote, et vous retrouvez des fois avec des fichiers Keynote qui font 2-3 gigas, juste parce que vous avez mis une ou deux vidéos. Moi, j'ai un problème, c'est qu'en fait, j'ai de nombreuses versions de mes documents. Par exemple, je fais des formations pour Pôle emploi, des formations pour des gens qui m'ont demandé pour des clients, etc. Et en fait, des fois, c'est des itérations. Je prends le document que j'ai présenté à certains, je vais le modifier pour une autre fois, etc. Avant, je faisais ça sous Keynote, je dupliquais mes documents. Et je me retrouvais avec des multiples versions, mais surtout des versions qui étaient toujours très lourdes, parce que dedans, si j'avais inséré la vidéo dans un document, je le dupliquais, j'avais la vidéo partout. Avec DeckSet, le principe est un peu différent. Vous avez un fichier texte dans lequel vous avez toutes vos diapos, les unes sous les autres. Elles sont juste séparées par un tiret de séparation, là par des petits tirets pour faire une ligne horizontale. Elles sont balisées en Markdown, et en fait, le logiciel DeckSet, lui, quand on ouvre ce fichier texte dans DeckSet, il va reconnaître comment ça a été structuré. On va pouvoir ensuite appliquer dessus un style graphique de présentation pour sa présentation et il va assembler ça. Donc il va aller chercher, on va dire dans son fichier texte, balisé en Markdown, je veux afficher telle image de telle ou telle manière, je veux afficher telle vidéo, je veux afficher tel document, je veux mettre un numéro de page ou des choses comme ça. Et le DeckSet en fait va le reconnaître et lorsqu'on doit faire la présentation, on démarre DeckSet, on ouvre le fichier Markdown dans DeckSet, lui il le transforme en présentation qu'on va afficher. On peut même mettre des notes de bas de page directement dans le fichier dans le fichier texte balisé en Markdown et on se retrouve avec des notes de bas de page. Et après c'est un logiciel très classique de présentation hein. Quand vous êtes sur votre ordinateur, sur l'écran de votre ordinateur, vous avez la diapo en cours, les notes de bas de page et la diapo suivante, et puis vous faites défiler ça avec une petite télécommande. Ça m'a révolutionné le stockage sur mon ordinateur, ça m'a révolutionné ma manière de travailler. C'est beaucoup plus léger que Keynote ou PowerPoint. Alors, bien sûr, vous n'avez pas tous les effets, mais si vous êtes fan des effets, des rotations, des diapos, etc., moi, j'utilise jamais ça, je déconseille de les utiliser. Mais là où ça m'a vraiment solutionné le truc, c'est que maintenant, j'ai un dossier sur mon ordinateur, alors je les ai structurés par année, où dedans, j'ai plein de petits fichiers qui correspondent à mes présentations. Ils font tous 3, 4, 10, 15 kilos. J'ai à côté de ça un dossier où j'ai toutes les images, un autre dossier où j'ai toutes les vidéos. Et en fait, qu'est-ce que je fais dans mes fichiers de présentation? Je dis, j'affiche telle image, telle vidéo, telle chose comme ça. Je n'ai qu'une version de mon image, qu'une version de ma vidéo. Elle s'est pas dupliquée. Et j'ai un dossier qui est passé de plusieurs dizaines de gigas. En fait, il était divisé par 10 tout simplement. Parce que maintenant, en fait, je n'ai plus que quelques fichiers de présentation. En plus, ils sont beaucoup plus rapides à ouvrir. C'est que des petits bouts de fichiers de texte. Contrairement à des présentations Keynote qui sont des fois très lourdes et donc très longues à ouvrir. Et en plus, ça a un gros avantage, c'est que si je devais envoyer ma présentation à quelqu'un qui connaisse un petit peu Markdown, bien sûr, je pourrais lui envoyer. On pourrait même imaginer un cas très, très simple. On a chacun DeckSet sur notre ordinateur. Je lui envoie juste le fichier Markdown. On met les images sur un serveur, sur Internet ou quoi que ce soit. On pourrait juste en s'envoyant le fichier DeckSet ou en partageant le fichier DeckSet sur un éditeur, GitHub, par exemple, qui comprend Markdown aussi, très simplement travailler dessus en commun, juste envoyer le fichier, juste le transférer, ça serait beaucoup plus léger et chacun pourrait prévisualiser de notre côté. DeckSet, je le précise aussi, est capable de sortir du PDF. Donc une fois qu'on génère même pas la présentation, elle est générée à la volée. Si je modifie le fichier texte, il va refaire la présentation. Quand on est content, on fait un export de cette présentation en PDF aussi, et ça fait par exemple les documents qu'on peut imprimer pour donner aux stagiaires. Voilà. Voilà à peu près les outils que j'utilise moi sur mes ordinateurs, sur mon téléphone. Je dois ajouter dedans les CMS que j'utilise. Ghost pour mon blog, vous écrivez en Markdown. Voilà, l'écriture de base dans Ghost, c'est du Markdown. Sur WordPress.com, ils ont fini par l'intégrer. Si vous avez un blog auto-hébergé, vous pouvez ajouter du Markdown très facilement avec plusieurs plugins. Mais le plugin le plus simple, c'est celui qui est fourni par WordPress, qui s'appelle Jetpack. Dans Jetpack, vous avez plein de fonctionnalités, dont le traducteur Markdown. Donc vous pouvez mettre très simplement, vous copier-coller un texte écrit en Markdown sur votre ordinateur dans l'interface de WordPress en brut, et lui, à l'affichage, il va être transformé en affichage avec HTML, avec le gras, l'italique, les intertitres. Dans Ghost, c'est pareil, vous faites un copier-coller, et derrière, vous pouvez écrire directement dans Ghost ou dans WordPress en Markdown, bien sûr, si vous voulez. Et lui, en fait, les outils-là vont transformer ça en présentation HTML en mettant le gras, l'italique, tel qu'il faut l'intégrer. Il y a plein d'autres CMS qui le font, Jekyll par exemple, ou Grave, GRAV par exemple, qu'on voit tourner depuis quelques temps, mais désormais qui a l'air très intéressant, font partie aussi des outils, des CMS qui utilisent Markdown, qui, il faut bien le dire, devient un standard qu'on croise vraiment partout. Pour moi, il est devenu vraiment indispensable, je vous l'ai dit, je l'utilise très naturellement partout, y compris là où je ne peux pas l'utiliser. Je regrette ainsi, je vous le répète, dans Evernote, je regrette qu'on puisse pas juste mettre ses notes en Markdown dans Evernote. passer. D'ailleurs, alors, à ce sujet-là, il y a des outils qui permettraient de le faire. Alternote est un outil qui, par exemple, qui permet de saisir des notes dans Evernote en Markdown. Mais bon, voilà, et c'est bien stocké sur Evernote. Vous avez dit aussi ByWord permet d'écrire des fichiers sur son ordinateur en Markdown et les exporter ensuite dans Evernote. Et là, ils sont transformés dans le langage, la présentation Evernote. Donc, vous pouvez utiliser du Markdown dans Evernote si ça vous chante. Moi, j'écris tout mon processus d'écriture désormais est en Markdown, mais vraiment tout, quel que soit le document. C'est pour du web, pour mes blogs, pour mes cours, pour des documents Word que je dois envoyer, parce que des fois, on me demande des articles. Je les écris en Markdown. Et si je dois les envoyer en format Word aux gens avec la présentation, avec le style, eh ben je vais juste les exporter via soit Ulysse, soit Markdown ou quoi que ce soit dans un format Word. Et ensuite, une fois qu'ils sont dans Word, je vérifie que la mise en page est bonne, je fais ma mise en page et derrière ensuite, j'envoie le fichier final. Le gros intérêt, et vous l'avez compris, c'est aussi le lien, et je le redis avec l'épisode de lundi, donc l'épisode 156 sur la manière d'écrire, c'est que en faisant ça, je dissocie la période d'écriture de la période de mise en forme. Je ne perturbe pas ma période d'écriture par la mise en forme et la mise en page, etc. Il y a un temps pour écrire et il y a un temps pour éditer, pour mettre en forme. Ça revient aussi à ce que je vous avais dit sur un épisode où j'avais justement parlé de Ulysse sur l'écriture en trois temps dans lequel on stocke des dossiers. Dans un, je mets les dossiers, dans l'autre, les idées. Dans un autre, je mets ce que je suis en train d'écrire. Hein, et là, je l'écris directement dedans et ensuite, je réédite ces fichiers-là quand je dois les exporter dans la version finale. Le fait de le faire en Markdown m'évite aussi d'être perturbé par toutes les questions de mise en page, de mise en forme, de c'est pas la bonne police, pourquoi il met la police en petit, pourquoi il met la police en gros, pourquoi je peux pas mettre de titre, etc. Bref, vous l'avez compris, pour moi, c'est vraiment un gain de temps énorme. Voilà, c'est pour ça que je vous recommande d'y jeter un œil si c'est pas déjà fait. C'est franchement, voilà, je le dis, un langage auquel on prend goût. Vous le croisez à plein d'endroits dans des fichiers, vous savez, les fichiers README qui sont livrés avec certains logiciels sont souvent désormais écrits en Markdown. Sur des plateformes de programmation, vous trouvez du Markdown. Dans des fichiers d'aide, vous trouvez souvent du Markdown, etc. Il y a énormément d'outils qui vous permettent de générer du Markdown. Si vous n'avez pas la fibre barbu, geek, au sens programmation ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez que quelques éléments à prendre, mettre des dièses, des étoiles, des tirets ou des choses comme ça dans un document. Franchement, c'est rien du tout, mais vous allez voir, vraiment, vous allez voir le gain de temps, notamment, et je le dis parce que pour ceux qui seraient tentés de faire de l'écriture sur leur téléphone, si vous prenez un outil d'écriture classique, mais même l'application Note d'Apple sur iOS, quand vous voulez mettre un texte du gras dans cette application-là, vous êtes obligé de taper votre mot, ensuite de le sélectionner, d'essayer de sélectionner bien la bonne partie, et ensuite d'appuyer sur le gras, la mise en forme. Pour faire la même chose en Markdown, par exemple dans Beer, quand vous savez que vous allez mettre en gras, vous commencez à taper votre texte, vous mettez deux étoiles, vous tapez votre mot, deux autres étoiles, et votre texte, il est en gras. Voilà, et sans qu'il y paraisse, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus rapide. Et sur clavier, c'est aussi beaucoup plus rapide. C'est tout simplement un outil qui vous permet, voilà, de baliser naturellement, mais même sans y penser, voyez, vraiment, au bout d'un moment, une fois que vous aurez intégré, vous n'y penserez plus, parce que ça deviendra très naturel, et surtout, ça ne vous perturbe pas la lecture des documents ensuite, et ça vous permet aussi de vous dire que vous pouvez les sauvegarder pour plus tard, les garder en stock, faire de l'archivage. Et je vous le dis quand même, l'archivage, c'est un truc important. J'en reparlerai parce que on voit aussi dans ce monde d'internet en ce moment des plateformes qui ont tendance à supprimer des documents, des choses comme ça, voilà. Et c'est bien de garder des traces, quand même. Et c'est bien surtout de pouvoir garder des traces dans des formats qu'on est sûr, mais vraiment certain de pouvoir ouvrir un autre jour. Voilà, sur ce, cet épisode était un peu plus long que ce que je pensais faire sur Markdown, mais vous savez, vous avez compris à quel point je trouve que ce langage est intéressant, est important, et vous fait vraiment gagner du temps. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas, je vous le répète, à laisser un petit commentaire dans les notes d'émission, sur iTunes, sur les plateformes, etc. Petit à petit, j'ajoute le podcast en plein de plateformes. Il y en a une qui me résiste, c'est Spotify. J'ai toujours pas compris comment faire en sorte d'être référencé dans Spotify. Mais je continue à mettre des liens à droite, à gauche. Voilà, je sais pas si je vous l'ai dit. Vous pouvez sur Android, vous pouvez l'écouter sur Stitcher, vous pouvez qu'est-ce que j'ai fait d'autre l'autre jour? Google Play, bien sûr, il est référencé, même si Google Play n'est pas officiellement ouvert pour la France, j'ai réussi à le référencer à l'intérieur. Il me reste Spotify qui résiste un petit peu, mais voilà, on va essayer de travailler là-dessus. Vous pouvez aussi toujours l'écouter, je vous le dis, sur YouTube, parce que je me suis rendu compte que certaines personnes ne l'écoutent que sur YouTube, voilà. Au YouTube, vous n'avez que, bien sûr, une vidéo, une fausse vidéo avec l'audio, mais si c'est votre plateforme de consommation, et vous pouvez le faire aussi sur YouTube. Et sur ce, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Vous pouvez aussi, poser des questions. Le Ask Bertrand de cette semaine est rempli, le Ask Bertrand de la semaine prochaine sera rempli aussi, on arrive à la fin de l'année, mais si j'ai plein de questions, je ferai des séances de Ask Bertrand plus rapprochées, parce que comme elles commencent à arriver à être un petit peu plus nombreuses, c'est super génial, n'hésitez pas, voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me laisser des questions. Il y a le formulaire sur mon site votrecoachway.com, il y a même le formulaire audio pour laisser une question en audio, voilà. Vous pouvez aussi m'envoyer le fichier audio par plein d'autres moyens, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous prépare aussi quelques surprises ou enfin des petites variations dans l'émission, dans le podcast d'ici la fin de l'année. Mais ça, je vous en dis pas plus parce que il faut d'abord que j'arrive à structurer ça, mais j'ai plein de petites idées pour un petit peu changer un petit peu la forme, un petit peu améliorer. Et puis je suis en train de réfléchir à l'avenir du podcast, de ce que je vais faire sur 2018. Parce que vous savez que 2018, ce sera une grande année pour moi, avec la naissance de notre bébé, et que ça va forcément perturber pas mal de choses. Donc, je suis en train de réfléchir à ce qui va se passer derrière. Mais ça, je le réserve en priorité aux Patriotes. Je vous ferai un petit épisode de podcast un petit peu spécial pour vous, avant de le dire aux autres, voilà. De même que je le dis aussi, je réfléchis à supprimer le groupe Facebook du club des créateurs de contenu, enfin le supprimer, ou en tout cas lui adjoindre un forum externe. Dites-moi si vous trouvez que ce soit une bonne idée. C'est pas qu'on n'est pas bien dans le groupe Facebook du club des créateurs de contenu. C'est juste, voilà, que j'ai pas envie de baser le futur sur Facebook, et surtout que en sortant ça dans un forum avec un vrai moteur de recherche, avec une vraie structuration, ça permettra aussi de faire plein de choses super intéressantes avec des zones plus thématisées, des zones réservées aussi, par exemple à ceux qui donnent de l'argent sur Patreon, à des zones aussi où vous pourriez avoir des outils plus complémentaires, etc. Enfin bref, je réfléchis à plein d'autres choses comme ça. Donc si ça vous semble être une bonne idée, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je sais que certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous écoutent mais ne sont pas membres du groupe Facebook. Et je me dis que certains, c'est parce que vous n'êtes pas sur Facebook, ou certains, c'est que vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça sur Facebook. Et je me dis que peut-être, voilà, un outil externe peut aussi être intéressant. Et en tout cas, pour moi, ça me semble, j'en reparlerai, je ferai un épisode dédié à ça, mais parce que je vais travailler dessus dans les jours qui viennent, ça me semble être pour moi aussi c'est la piste d'avenir que j'étudie de mon côté. Parce que vraiment, autant les groupes Facebook, c'est génial, ça se développe super vite, etc. Autant je n'ai plus confiance dans Facebook. Mais ça, vous le savez depuis un épisode récent. Voilà. Sur ce coup-là, je vous laisse. C'est les petites notes de service, vous savez, tous ces petits trucs-là. Ça fait partie aussi des évolutions que je voudrais faire petit à petit. C'est-à-dire que je ferai bientôt des épisodes de retour sur... je vous ai parlé de tel outil, mais voici ce que c'est devenu. Je vous ai parlé de tel outil, mais finalement, je l'ai abandonné. Il y a tel outil qui vient de sortir. Est-ce qu'il faudrait l'utiliser ou pas? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ça fait partie des petits bouts d'évolution que je vais faire aussi dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais ça, voilà, je vous le garde petit à petit. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que déjà, voilà, 44 minutes, il est temps pour moi de vous laisser. Voilà, vous avez autre chose à faire que m'écouter. Donc, je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très belle fin de journée si c'est la fin de journée. Je vous souhaite à tous de très beaux projets créatifs, bien sûr. On se retrouve demain, mais si vous avez besoin d'un petit conseil, d'un petit message, d'un petit avis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible quand je vois le message, ce qui n'est pas toujours le cas, et quand j'ai une idée pour vous répondre. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Hold up. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.